vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 30. 1000 milliards de 1000 sabords. Chers amis, bonjour. Vous connaissez tous le capitaine Haddock et ses colères qui crient « 1000 milliards de 1000 sabords ». Vous l'avez bien connu dans les albums de Tintin et Milou. Alors si en ce moment, des jeunes auditeurs ne connaissent pas les bandes dessinées de Tintin et Milou, de 7 à 77 ans, mais depuis la réforme sur les retraites, hein, c'est de 7 à 97 ans. Alors franchement, allez dans une librairie et lisez Tintin, mais alors dans les grands albums cartonnés, pas les petits trucs souples là du marketing. Et alors, fouillez dans la bibliothèque de vos parents. Vous trouverez Tintin entre La recherche du temps perdu, bien entendu une lecture indispensable, On peut vivre sans Proust, mais on vit mieux avec. Et à côté aussi, dans la bibliothèque, vous avez toute la série des Lagarde et Michard, du Moyen-Âge au XXe siècle. Ce sont les livres de littérature française qu'on avait au lycée, mais les profs ne s'en servent plus, mais les parents qui les ont encore, je vous le dis, sortez vos Lagarde et Michard. Alors, il y a trois choses, hein, des constantes dans notre émission, vous l'avez bien connue, c'est la tarte au fromage de la boulangerie de la rue Gaillère, il y a Proust, il y a les embouteillages rue, c'est comme les trois mousquetaires, il y en a quatre, hein, les embouteillages de l'avenue des Vosges et les Lagarde et Michard.
Et Lagarde meurt, mais ne se rend point.
Absolument. Et c'est bien pour cela qu'il faut lire dans la chronologie, même si c'est antipédagogique, je ne sais pas quoi, les Lagarde et Michard. Donc, si vous avez des adolescents, vous confisquez les iPhones et trois pages de Lagarde et Michard tous les soirs. Donc, maintenant, Tintin et le capitaine Haddock, vous l'avez bien connu, eh bien, Hergé, écoutez bien, il a copié. Hergé, c'est le créateur de Tintin, c'est Georges Rémy. Voilà, c'est ça, R de Rémy et G de Georges.
Et de Zig et Plus.
Et de Zig et Plus, et de Le Manitoba ne répond plus, oui. C'est Joe et Zette. Voilà, donc, Hergé, il s'est inspiré d'Alexandre Dumas. Et alors, j'ai trouvé ça une fois en lisant Les Mohicans de Paris. Vous avez un corsaire qui dit « Hé, sacrebleu, je vais jurer comme un matelot 1000 sabords ». Quand j'ai lu ça, je me suis dit, nom de Dieu, Hergé a triché. Voilà. Alors, non, il n'a pas triché, il a emprunté. Alors, le sabord sur un bateau de guerre, c'est le trou pour faire passer le bout du canon et tirer sur l'ennemi. Et le sabordage, alors ça, c'est la flotte française à Toulon, le 27 novembre 1942, tous les navires coulaient. Il y en avait même un, des navires qui s'appelait le Strasbourg. Et bon, ben, c'est la flotte française qui s'est elle-même sabordée pour ne pas tomber aux mains des Allemands. Et même s'ils avaient voulu emmener les bateaux aux États-Unis, les Allemands les auraient récupérés en cours de route. Donc, coulé. Et puis, au figuré, on dit « saborder son travail ». Saborder un épisode d'une émission de radio en n'invitant que des pirates. Et autour de cette table, 1000 milliards de 1000 sabords, autour de ce micro, il n'y a que des gens qui aiment les jurons et qui n'hésite pas à dire des gros mots. Donc, chers amis auditeurs, attention, il va y avoir des gros mots.
Donc, pirate ! Pirate, comme dans la pub !
Madame Dupont du Jupon, qui est couturière. Il y a Filet sans eau. Alors, il est boucher charcutier, mais tout le monde le connaît. Il y a Madame Irma. Alors, c'est la petite fille de Irma, de la bande dessinée. Elle est oculiste stagiaire.
Un jour, elle... Avant, j'étais occultiste.
Oui, mais... Et je suis devenue occultiste. Elle a mal vu l'affiche en rentrant dans le bureau. Et Anatole, avec un nœud, hein, Anatole Tourneciel, qui est graphiste. Et enfin, la Nera Castafiore, qui est bien sûr cantatrice.
Oui, c'est moi.
Alors, aujourd'hui, dans cette émission, pour éviter les jurons, La Castafiore va chanter. Donc, maintenant, je vous demande vraiment franchement, est-ce qu'il y a un tabou sur les jurons? Est-ce qu'on peut dire comme ça, alors écoute, n'écoutez pas, hein, mais je vais le dire, putain bordel de merde, où est-ce que j'ai rangé mon bouquin que je vais absolument retrouver?
Oh, moi, je les aime tous, les petits, les gros, les grands, les oh, tous.
Les vulgaires.
Oh oui, les vulgaires, encore mieux.
Et puis ça soulage.
Tellement.
Comme dirait le peintre.
Mais alors, quand vous êtes dans votre boucherie-charcuterie, et si une cliente rentre et pour vous commander 3 côtelettes, elle le fait en chantant.
Elle payera en chanson.
Ah, voilà, en chantant.
En chantant.
Voilà. Et on peut prendre sa bourse, l'agiter et vous donner simplement le bruit des pièces qui s'entrechoquent. Ça marche? Je crois que c'est dans le roman de Renard, non? C'est enfin de la même période? Non.
Non. Oui. Oui. Ça peut se faire.
Et, mais alors, vous
tout
gagnez,
est possible.
Vous ne gagnez pas votre vie.
On gagne à être connu, c'est déjà pas mal.
Voilà. Mais alors quand même, ce nom pour un boucher s'appelait Sans Eau, bon, c'est un gag de Hergé, c'est quand même un petit peu désolant. Alors vous êtes des Sans Eau de père en fils ou la boucherie,
oui,
c'était, je crois,
méfier.
Celle de votre grand-père, hein?
Exact, et c'est oui. Vrai en plus. Mmh. Mais il faut se méfier parce que l'eau triche.
Voilà. D'accord. Mmh. Oui, on est alors. Mais c'est pas les jeux de mots, c'est pas des gros mots. C'est compliqué. Hein. Moi, j'aurais pu amener un dictionnaire des jurons et tout. J'ai fait exprès de ne pas l'amener pour voir si vous aviez de l'imagination.
Mais un même mot peut être prononcé avec une intention différente. Et même un gros mot peut être dit avec tact et délicatesse.
Genre mon petit couillon.
Oui.
Quand ils ont fait un régime, par exemple.
Mozart, dans ses lettres à sa douce et tendre, l'appelait mon petit trou du cul. Et pourtant, c'était le divin Mozart.
Et elle aimait être appelée comme ça parce que c'était un élément de tendresse et non pas une vulgarité.
C'était un élément d'ébriété avancée, parce que c'était un joyeux vivant.
C'était un élément de réminiscence.
Il brûlait la chandelle par les deux bouts et il était souvent de sortie jusqu'à pas d'heure.
Oui.
C'était né partie fine dans les parties fines, fine.
Et quel dommage que sa sœur n'ait pas eu le même destin que lui.
Oui, mais lui avait la flûte enchantée.
Oui. Bon, alors, Madame Tourneciel, hein, bon, c'est toujours mieux de lever les yeux que de les baisser hein, vers le sol. Bon, quand vous lisez Tintin et Milou, est-ce que ça vous stimule ce qu'on appelle la ligne claire, comme cela? Est-ce que
la libido, quoi.
La libido, oui. Non, vos dessins, c'est plutôt des grands fouillis avec des taches partout ou alors un dessin très lisible ou
très épuré, très oui plutôt oui.
Oui.
Et les gros mots, étant donné mon éducation, j'ai beaucoup de mal à les écrire.
Mais la transgression, c'est quand même du plaisir, ça.
Et oui, ça peut être du plaisir, mais ça amène aussi beaucoup de culpabilité, de c'est pas simple.
Oui, mais alors, il suffit d'avoir une petite poche dans laquelle on met... alors, vous demandez à une couturière de vous faire une poche dans laquelle vous mettez votre culpabilité, vous vous asseyez dessus. Vous voyez, une poche arrière. Une poche book, une Facebook. Vous vous asseyez sur votre culpabilité et là, vous y allez.
Et je pourrais même la dessiner, la culpabilité, puisque je suis graphiste.
Vous êtes graphiste, bien
oui,
sûr.
Oui, oui. Et donc, je pourrais, oui, y réfléchir et la dessiner. Et l'éloigner de moi.
Voilà. Alors, est-ce qu'un vêtement peut être injurieux? La mini-jupe, vraiment, comme on dit, ras-le-bonbon et des choses comme cela. Est-ce que c'est une insulte, je ne sais pas, au bon goût? Ou alors, au contraire, c'est une provocation? T'es toute nue, sous ton pull, toute la rue, et ma
joli
boule, joli môme.
Les jupons peuvent être... retrousser. Et donc, retrousser ou bâtir ou défaire. Donc, dans cet assemblage de mots, il y a des choses positives ou alors extrêmement offensives, surtout pour les femmes.
Oui. Mais par exemple, faire un vêtement provoquant, je ne sais pas, enfin maintenant... Je vois des robes où il y a des trous dans les bras pour qu'on puisse voir les calcomanies, là, les tatouages et tout. Est-ce que c'est presque une insulte au bon goût?
Mais vous connaissez les vêtements du roi nu?
Oui.
Est-ce qu'on les a vus? Est-ce qu'on les a vus? Eh bien voilà, c'est l'exemple même de puissance d'expression de notre vestimentaire.
Oui. Je ferai remarquer qu'entre jupon et du juron, il n'y a qu'une lettre qui change et on peut passer du divin au sordide.
Et c'est comme Dupont et Dupont. Il n'y a que, voilà.
En quelque sorte.
En quelque sorte. Moi, j'ai
Ou habillé et déshabillé.
Habillez-moi, Benoît.
Déshabillez-moi.
Déshabillez-vous.
J'ai une anecdote, justement, sur le bon goût et sur le juron. Alors, c'était au Festival de Cannes, mais dans les années 80. Et même les journalistes devaient porter un nœud papillon. C'était obligatoire et une veste noire pour pouvoir monter et tout. Et pour les filles ou les femmes, c'était pareil. Il fallait avoir une tenue de gala compliquée. Et donc, il y avait une collègue.
Il y a des codes vestimentaires.
Voilà. Voilà.
C'est tellement bien le gala. Oh, j'aime ça.
Et donc, il y avait une collègue journaliste. Je crois que c'était la première année où Canal Plus était là. Et donc, elle était très bien habillée, un joli t-shirt blanc avec une petite veste. Et puis, je pense que c'était un jean ou une jupe, enfin voilà. Et donc, le Cerbère qui était à l'entrée lui dit « Non, vous ne montez pas, non, vous n'êtes pas habillé comme il faut. »
Il fallait une robe longue.
Et panique, enfin, elle veut y aller, mais je travaille, j'ai ma carte de presse et tout. Le gars, il dit « Non. » Idée, je peux revendiquer l'idée parce que j'ai trouvé ça très rigolo et donc je peux la dire. Je lui dis, est-ce que vous avez des... Elle avait un petit sac à main avec... et je lui dis, vous avez des petits ciseaux dedans? Elle me dit, ben oui. Je lui dis, enlevez votre soutien-gorge. Et j'ai fait deux petits trous au niveau des tétons dans le t-shirt, deux petits ronds où les tétons ont dépassé.
Et elle est
rentrée parce qu'on a dit quelle audace, j'aurais pu être grand couturier. Donc vous voyez, et donc c'était presque insolent, enfin c'est presque une insulte à la grande couture et tout, et ça a marché. Comme quoi, en fait, les jurons, quand on les entend et quand on les lit dans Tintin et Milou, on les trouve formidables. Et quand dans la vie courante, les gens jurent comme des charretiers, d'ailleurs, est-ce que les charretiers, ils jurent
Est-ce que les Polonais boivent?
Ah, je ne sais pas.
Il ne faut jurer de rien.
Voilà.
Mais en fin de compte, le juron, c'est pas grave du moment qu'il ne nous est pas adressé. Moi, je trouve ça très drôle. Hein.
Oui.
Mais à partir du moment où vous êtes la cible du juron, commence à être déjà un peu en riz jaune. Quoi.
Ma chère, vous savez ce qu'on dit? Il faut toujours mieux qu'on parle de soi que de ne pas en parler du tout.
Vous connaissez le juron le plus usité, surtout quand on est au volant? C'est connard et connasse. Voilà, ouais. des gens qui sont en bac plus 18, donc des linguistes et tout, qui ont étudié. Alors, je ne sais pas comment ils ont pu
enregistrer. Ça, c'est assez vrai, parce que moi, ça me vient assez facilement.
Oui.
En voiture, oui.
De l'entendre
ou de le dire? De le dire.
Voilà. Mais, par exemple, si...
Alors, moi, j'aime mieux du con.
Et du con, oui. Avance.
Avance du con.
Bon, mais si maintenant je m'adresse aux auditeurs de Radio Judaïka et je dis les connards et les connasses, écoutez donc notre émission.
Non, ça c'est.
Ça marche pas. Non.
Mais tu les connais pas assez bien.
Oui, et puis en plus, c'est.
C'est comme quand t'appelles ta meilleure copine, tu viens ma poule, hein, ça va. Mais si le monsieur à côté de moi me dit on y va ma poule.
Ah ben le sens est différent, bien sûr, mais les mots, c'est les contextes. Hein. Ouais. Encore une fois, l'art poétique de Boileau, il explique très bien que c'est tout ce qu'il y a autour qui fait qu'on comprend quelque chose ou autre chose.
Oui, et Madame Irma, on pourrait comprendre que c'est ma poule de cristal.
Ah oui, voilà, oui. Voilà.
Oh,
heureusement.
Oh.
Voilà.
Chaque fois qu'il y a un bon mot, je chante.
Ah ben écoutez, et alors Anatole, vous, qui êtes tellement collé-monté, et qui avait donc un pédigré de comtesse, aux pieds nus, mais comtesse quand même.
Tout à fait.
Est-ce que parfois, toute seule, dans votre salle de bain, pour vous amuser, vous commencez à je sais pas, à vous insulter vous-même dans votre miroir, par exemple. Ah, je ris de me voir aussi belle dans ce miroir. Mais...
Est-ce une insulte ?
Ah non, ça c'est moi qui le dis, normalement. Je vous en prie, ne me piquez pas mes répliques.
Mais c'est plutôt le moment où je préfère, plutôt que de m'insulter, me redonner de l'énergie en me faisant des compliments. Voilà. Plutôt
positif.
Oui, parce que je pêche de ce point de vue-là.
Oui, mais l'origine des jurons est toujours très amusante. L'étymologie est assez, enfin, c'est des glissements sémantiques qui sont très drôles. Et bon, voilà, merde, par exemple, bon, c'est, enfin, ça vient, voilà, c'est. C'était au bord de l'océan et le gars il dit c'est la mer de la Méditerranée et l'autre lui dit non, c'est l'océan Atlantique. Non, c'est pour essayer de faire le jeu de mots le plus mauvais possible.
Oui, ça ne sent pas très bon, je trouve.
Il est assez réussi dans le genre mauvais.
Voilà. Alors, encore une fois, quand on est couturière et qu'on se pique le doigt, parce que ça, c'est dans les contes de fées, hein, ça arrive souvent, il y a la goutte de sang et tout, et elle s'endort, elle se réveille 100 ans plus tard, il y a le prince charmant qui arrive, il y a Blanche-Neige qui mord, non, ça c'est la Belle au bois dormant, dans la pomme.
Non, c'est Blanche-Neige. Blanche-Neige.
C'est Blanche-Neige qui mord dans la pomme. Et donc, elle s'endort pendant 100 ans.
Non, elle est empoisonnée.
Elle est empoisonnée.
Cendrillon.
Oui, mais alors, la goutte de sang, c'est dans Cendrillon ?
La goutte de sang, c'est...
Ah ben, on ne sait plus. 100% sûr
c'est la Belle au bois dormant.
C'est la Belle au bois dormant. Voilà. Et alors... Ah non, mais je confonds. C'est... Elle avait un costume et à minuit, elle s'est transformée en citrouille.
Voilà, Cendrillon. Ça, c'est Cendrillon.
C'est Cendrillon, ouais. Voilà. Ouais. Donc, le costume de Cendrillon. Racontez-moi.
Ben, il y avait pas de couturière là-dedans, c'était le miracle qui ramenait immédiatement, c'est voilà, comme ça, poum, et le costume était là.
C'est-à-dire que c'est une espèce de, comme un hologramme, hein, on en parle parfois, spontané, impulsif.
Je pense qu'il y avait une garde-robe derrière qui attendait pour qu'on l'ouvre la porte.
D'accord. Comme carrosse et citrouille, peut-être.
Oui. Un trouille, deux trouilles, trois trouilles, quatre trouilles, cinq trouilles, six trouilles, je vous ai volé la blague et tout. Mais bon, quand même, parlons de l'éducation de nos enfants. Ils reviennent de l'école avec des jurons. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va jurer encore plus qu'eux ou pas ?
On leur fait brosser les dents.
Avec du savon.
Avec du savon.
Avec du savon.
Pour qu'ils ne disent pas
la bah non, on leur colle du sparadrap sur la bouche.
Ah voilà, le sparadrap du capitaine Haddock, merci.
Mais c'est
merci.
Vrai.
Comme
j'ai
ça,
connu
on en
ça
revient.
À l'école primaire.
Madame Dupont.
Ou alors on leur fait croire que c'est des jolis mots. Jolis mots.
Ah oui, pourquoi pas.
Des jolis mots, les. Des jolis mots, les.
Aussi, ah oui, comme les œufs. Les œufs mollets. Oui, alors effectivement, autre anecdote, dans un pays asiatique il y a très 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 longtemps, j'étais au Cambodge, avant Pol Pot. Et les gamins venaient et ils disaient « fuck you, fuck you ». Donc, des trucs. C'est simplement parce que le juron, il l'entendait tout le temps et il pensait que ça voulait dire « bonjour ». Voilà. Donc, c'était assez rigolo. Voilà. Donc, ou alors, c'était des facétieux GIs qui leur avaient dit ça pour se moquer d'eux. Mais je ne pense pas, non, c'était simplement... voilà. Donc, le jeu de mots, enfin, le juron peut être complètement détourné.
Et inversé.
Voilà, vous vous rendez compte, le président de la République qui...
Fuck you.
Qui voilà.
Oh bah maintenant, ils font un bras d'honneur à la place. C'est pas...
Oui, oui.
Oh, ça, ceci c'est... dit, notre président, je pense qu'il y a pas mal de gens qui disent l'équivalent de fuck you.
Oui, mais c'est pas... En fait, le sens du gros mot se déplace complètement et ça devient une sorte de tic. Donc, c'est pas...
Ben oui, il y a des gros mots qui s'édulcorent. Quand j'étais petite, dire merde, moi, ça m'aurait valu une expulsion de l'école.
Oui.
Oui. Oui. Bon, j'étais.
Alors que maintenant, oui, c'est comme zut.
Mais
oui, c'est
ça. Il y a des gros mots, mais ça veut dire qu'il y a des mots maigres.
Oui.
Oui.
Oui, il y a des.
Bah,
des
zut, oui, par exemple, bah, c'est un mot maigre.
Bonjour madame, c'est un mot maigre aussi.
Et que pensez-vous du mot putain ? Est-ce qu'il est maigre ou est-ce qu'il est gros ?
Oh, il est assez gros, hein.
Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de gens concluent leur phrase avec le mot putain.
Et on se demande pourquoi.
On se demande pourquoi, oui.
Bah, ça remplace le point.
Ah, voilà. Voilà.
Dans le midi, du côté de Toulouse, c'est putain con.
Putain con.
Oui. Il ne sent pas très bon, parce qu'il n'y a plus... Ah.
Ah oui,
le thé au milieu, c'est un peu perdu. Bon.
Puin.
Oui, et puis quelquefois, tu dis putain.
Putain.
Putain, je suis cogné, putain.
Putain, toi. Putain, bordel de merde. Ouais, pardon, ouais. Encore une fois, n'écoutez pas. Mais donc, les jurons peuvent produire de la poésie. Est-ce qu'ils ont encore du sens ou c'est simplement des sortes d'onomatopées qui bougent
maintenant,
des trous dans une phrase?
Non,
ça dépend des générations.
Gros mots, il y en a qui puent et, qui sont, et d'autres qui sont de bons.
Oui, bordel d'Adèle, par exemple, c'est joli.
Oui. Oui, c'est vrai.
Ça dépend des générations. Les jeunes, putain, c'est comme un point, effectivement. Mais à mon âge, bien sonné, je conserve le poids de ce mot. Oui. Et il me choque particulièrement quand ce sont plein de filles qui disent ce mot, putain.
Et pourtant, c'est le plus vieux métier du monde.
Oui, mais comme on dit
alors... Oui, mais ce n'est pas le plus beau.
Mais on dit... Ah, on dit, bon, bordel alors, mais on ne dit pas maison de passe.
Oui.
Ce serait un peu plus... alors que maison de passe n'est pas du tout insultant. Enfin, c'est, pas, c'est quelque chose de descriptif.
Bah parce que tout passe, que c'est ouais.
Pas, oui. Oui. Passe le temps, comme on le
et
répète
nous,
souvent.
Et passe-temps. Passe-temps. Mmh.
Oui, mais c'est comme pouf et poufias. Maintenant, c'est devenu... Moi, je sais que quand j'étais petite, poufias, c'était une insulte terrible. Maintenant, il y a pratiquement des gens qui t'appellent ma petite pouf, quoi.
Oui.
Mais ça, c'est mignon. Oh,
et cocotte, cocotte.
Oui, ma cocotte, c'est ça.
Ah, c'est gentil, vrai. Ça, oui. Et repasse aussi pour la couturière.
Oui.
Une maison de repasse ou de repassage.
Oui,
alors c'est, là, pour c'est pour les hommes passage.
Oui.
Ah,
oui.
C'est les hommes qui repassent. Enfin, ils passent une fois, ils passent deux fois, ils passent trois fois, ils passent quatre fois.
Passe.
Pourquoi maintenant, ça peut, c'est plus que les hommes,
la
ça
place.
Peut être les femmes.
Ah oui.
Ah oui, voilà.
On...
Il y a de tout, de tout, de tout, de tout.
La maison de la place, donc ça c'est pour faire un hommage à Annie Ernaux. Enfin, je dis un hommage, elle sévit encore. Non, non. Non, quand je dis ça, c'est parce que j'ai une admiration profonde depuis 40 ans pour ces bouquins. Dès qu'ils sortent, c'est comme les Modiano. C'est tellement fin qu'on les lit en une nuit. C'est formidable. Et là, elle fait l'imbécile avec l'autre zouave imposteur, là.
Ah, tu veux dire le faux Robespierre?
Oui, le faux Robespierre. Elle joue Madame Danton. Et donc là, ça me désole un peu. Comment on peut... Donc, voilà, comment on peut écrire des choses aussi belles, aussi intelligentes? Et donc ça, c'est une injure, hein, c'est une insulte à l'admiration que les lecteurs ou le public vous portent. Donc je pense que quand on est un grand auteur, bon ça c'est la leçon de Flaubert, on n'existe pas.
Oui, ou hein, bien...
Il n'y a que l'écrit qui compte.
Je veux dire, c'est bon pour tous les artistes. Hein. Je veux dire, l'art peut être magnifique et la personne sans intérêt.
Oui, c'est pour ça qu'il ne faut jamais lire Gala ou Closer ou toutes ces choses-là.
Oui, voilà. Parce qu'on peut dire que la clé, c'est qu'il y a de la passe partout.
Voilà. Alors, je sais que Tintin et Milou a été traduit en alsacien.
Oui.
C'est l'affaire Tournesol. Je ne prononcerai pas le nom en alsacien, mais c'est assez intéressant de savoir que, comme ça, alors ça peut être de la récupération de marketing, mais alors ce serait intéressant de voir comment on traduit en alsacien 1 000 000 000 de 1 000 mais sabords, qui est quand même le sujet de notre épisode. Et donc, je suggère aux auditeurs qui parlent bien l'alsacien de nous contacter à la radio et de nous expliquer comment on dit 1 000 000 000 de 1 000 sabords en alsacien.
Moi, je fais une proposition. Haute Fertami, Noremol.
Oui, mais il manque la dimension maritime. Voilà. Donc, sur cette petite digression du juron alsacien.
Libératoire.
Et voilà, libératoire. Mortsmininich, si tu. Hein, c'est, voilà. Ah, je fais rire tout le monde.
Hein. C'est ce que t'as.
On y spine après le cucle. Ça veut dire un qui regarde à travers ses lunettes. Et ça, c'était l'insulte quand j'étais gamin. J'avais des lunettes à l'école maternelle. Et à l'époque, quand on avait 4 ans, c'était assez rare. Et on m'appelait Prele Kuklhaus. Bon, écoutez, si quelqu'un sait traduire 1 000 000 de 1 000 sabords en alsacien, qu'il nous contacte. C'est la fin de l'épisode.
C'était l'épisode numéro 30 de « Vous l'avez bien connu !»« 1000 milliards de 1000 sabords !» Avec aujourd'hui Madame Dupont du Jupon, qui est couturière, Filet sans eau, qui est boucher charcutier, Madame Irma, qui est oculiste stagiaire, Anatole Tourneciel, qui est graphiste, et Nera Castafiore, qui est cantatrice, bien sûr, à la technique Thomas Marinelli. On se retrouve tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. Et mon nom, c'est Ambroise Perrin.